Au nom du peuple français, en ce 9 septembre 1899, le Conseil de guerre permanent de la 10e région de corps d'armée a déclaré le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, à la majorité de 5 voix contre 2, coupable de haute trahison. Toutefois, à la même majorité sont votées des circonstances atténuantes. En conséquence de quoi, la Cour commue la sentence à 10 ans d'emprisonnement.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Une à tout vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Une à tout vous. Alors, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. Une réplique qui aurait pu être prononcée il y a un siècle et qui résonne encore aujourd'hui, classique, moderne, intemporelle, comme ce film, sur une affaire qui a révélé l'aveuglement, les préjugés, la haine. Un film, j'accuse, son auteur Polanski sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Son 22e film met en scène le grand scandale de la fin du XXe siècle, l'affaire Dreyfus, erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. Plutôt que de centrer son film sur la victime Dreyfus, Polanski le construit autour de celui qui mène l'enquête, Picard. Un scénario très intelligent qui va dénouer les nœuds du mensonge et de la trahison. Mais comment fait Roman Polanski pour livrer spectacle et vision personnelle? Quelle est sa méthode? Tentative de décryptage ce matin, déjà avec deux de ses comédiens. Bonjour Louis Garrel.
Bonjour.
Alfred Dreyfus dans J'accuse. Bienvenue Grégory Gadebois.
Bonjour.
Commandant Henri au contre-espionnage. Et derrière la caméra, deux hommes très proches du cinéaste. Bonjour Hervé Deluze.
Bonjour.
Monteur de Polanski depuis Tess en 79, c'est dire. Et bonjour Hubert Angamard.
Bonjour.
Premier assistant du réalisateur. J'accuse sort mercredi prochain, le temps qu'il nous restera pour les sorties de la semaine. Avec une chamane, un chien stupide, une espionne ou la cordillère des songes. C'est parti.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Mon colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître,
je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement.
On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi.
Peux-tu prouver tout cela?
Je voudrais éviter un scandale.
C'est déjà un scandale.
Tu devrais quitter Paris quelque temps.
Et toi?
J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola.
Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus.
Vous, non? Mais moi, si.
Très jeune, Polanski a vu la vie d'Émile Zola de William Dieterle avec le grand Paul Muni. Une scène l'a bouleversé à l'époque, celle de la dégradation du capitaine Dreyfus, à tel point que 8 décennies plus tard, il en fera d'ailleurs l'ouverture de son film J'accuse. Hervé Deluze, il vous a rappelé ce souvenir, il tenait absolument à commencer par cette scène-là. Vous, Hervé,
oui, ça,
le monteur.
Vraiment, de... Oui, c'était prévu déjà dès le scénario, je pense. Il voulait vraiment que ce soit la scène d'ouverture.
Très impressionnante, filmée de loin et qui se rapproche ensuite.
Oui, parce que ce qui était important, c'est qu'il y avait un monde fantastique à cette cérémonie, alors que c'était épouvantable, quoi. Tout Paris est venu. L'armée avait convoqué plein de militaires. Enfin bon, c'était très impressionnant. La foule était un élément déterminant dans cette scène, je pense, vraiment.
Hubert Angamard, je suppose qu'une scène pareille, entrons tout de suite dans la technique même, hein. Comme premier assistant, il faut gérer une foule pareille. Et comme Polanski a un sens énorme du détail, ça devait être dantesque, non?
Vous savez, d'ailleurs, puisque c'est la première page du scénario, donc quand on commence à lire le scénario, dès la troisième ligne, on apprend qu'il y aura 20 000 soldats. 20 000 spectateurs, oui. et 4 000 soldats.
Oui.
Alors déjà, on se dit, ça ne va pas aller si simplement que cela, cette affaire-là. Et donc, on sait déjà à quel type de film on a affaire immédiatement. Je disais souvent à mon équipe d'assistants qui travaillaient avec moi, il y a deux films à faire. Il y a la dégradation et tout le reste. Donc vraiment, on a mis vraiment le paquet sur cette scène, c'est-à-dire naturellement de la dépouiller au plus précis pour savoir ce qu'il était nécessaire d'installer dans cette scène et cette ambiance. Parce que vous savez, un scénario, on lit les lignes et puis il faut lire aussi entre les lignes. Il faut lire les marges aussi. Il faut lire tout ce qui n'est pas contenu dans le scénario. Et c'est le travail aussi de l'assistant de mettre tout à plat.
Il faut lire les sons. D'ailleurs, vous le dites, Hervé Deluce, très important chez Polanski. Il les signale dans le scénario.
Oui, c'est toujours... le son a une fonction dramatique et qui est déjà écrite sur le scénario. Enfin, c'est prévu. C'est pas des fioritures. On rajoute pas des sons, des ambiances, des machins comme ça. C'est écrit, quoi.
Là, c'est le son de l'épée qu'on casse, par exemple.
Oui, par exemple. Ah, ouais, oui, c'est ça. C'est des choses où à quel moment commencent les rumeurs de la foule, à quel moment ils se mettent vraiment à hurler. Pas au tout début de la scène, pas sur l'arrivée, pas sur... Il faut choisir ça, quoi. Il y a une progression, quoi. Vraiment un crescendo.
Par exemple, dans la scène de la dégradation, il y a le bruit des bottes et des fusils quand tous les soldats se mettent au garde à vous, qui est très très belle. Le son est sublime. Donc j'ai demandé à Roman, mais comment t'as fait? Il m'a dit, mais c'est les vrais sons. Alors sur le tournage, je ne sais pas comment il a fait.
Bah, il a oui,
enregistré les vrais sons, mais c'est très impressionnant le bruit des bottes et des fusils.
Il a enregistré les sons des centaines de figurants que nous avions ce jour-là. Avec des fusils d'époque, donc ça fait le bruit qui convient, quoi. Et les bottes aussi.
Et des centaines de beurre de bottes.
Absolument. Louis Garrel, c'est grâce à Ilan Goldman que le film a pu se faire, parce qu'il devait être fait d'abord en studio, en anglais, il y a eu une attente, et c'est Goldman qui... C'est grâce à lui que le film s'est tourné en français.
Mais moi, je connais bien le décorateur de Roman qui s'appelle Jean Rabas, et donc à chaque temps en temps, il me tenait au courant, il me disait, le problème, si tu veux, c'est que si on fait le film en studio, il coûte 10 millions de plus cher. Donc il va falloir qu'on trouve au moins, voire 15. Je dis 10, sinon ça va trop angoisser les éditeurs. Non, je dis...
On va aller plus après.
Et donc ils ont fait, je pense, Ilan Goldman, le producteur, est arrivé, a dit, si on arrive à trouver des décors extérieurs, on arrive à ramener le budget à une raison française. Et du coup, ils ont cherché avec Jean Rabas beaucoup de repérages à Dijon. Et ensuite, ils ont réussi à faire le film. Voilà.
Recherche extrêmement méticuleuse, sens du détail, je le disais. On écoute Roman Polanski sur la mise en scène.
Le plus important, c'est vraiment la persévérance, la force, car c'est un combat quotidien. Vous êtes entouré par une équipe qui vous est peut-être fidèle, mais au fond, les intérêts de toute cette bande de gens autour de vous ne sont pas exactement les mêmes que le vôtre. Donc, y a une contrariété quotidienne qu'il faut subir, et vraiment, c'est très très dur. Mais en dehors de ça, pour moi, ce qui est essentiel de ne pas oublier le modèle qu'on se fait dans la tête du film avant de commencer le travail. C'est-à-dire quand on entreprend un sujet, quand ensuite on travaille sur le scénario, quand on prépare tout, on a ce film en tête, en fait. J'appelle ça le modèle de film que je vais garder. Et je sais que pendant la production, plus proche je termine de ce modèle original, mieux c'est. Si je veux vraiment du succès, faut que ça soit la réplique identique. Et c'est très très dur, parce que dès que vous vous retrouvez sur le plateau le premier jour de tournage, vous constatez déjà que les costumes sont pas exactement comme vous les avez imaginés, même si vous avez travaillé avec les costumiers ou la costumière, qu'on a fait des dessins et des projets, que les décors ne sont pas exactement comme vous le vouliez, comme vous les aviez en tête, que les acteurs ne sont pas exactement des personnages que vous avez imaginés, etc., etc. Ça s'accumule. Faut donc se bien concentrer et rester les plus proches de ce que vous avez imaginé au départ.
Polanski interviewé par Laure Adler, il y a eu de l'écoute pendant ce son et à la fois des sourires sur les lèvres et dans les yeux. Grégory Gadebois, je suppose qu'il y a une pression assez énorme quand on vous dit Polanski vous engage.
Ah oui. Oui, ça fait c'est beaucoup de... On est content en même temps. Très. Mais ça fait peur presque, ouais. Et puis
pourquoi peur?
Bah parce que des fois je regardais, je me disais c'est ce monsieur-là qui a fait Chinatown. Ça me faisait bizarre
d'être dans Chinatown. Enfin deux.
Ouais. C'est bizarre mais Et puis très vite, ça rentre dans le travail et ça passe.
Est-ce que c'est lui qui vous a casté ?
Non, c'est Hubert.
Et est-ce que vous l'avez vu un petit peu avant le tournage ?
Oui.
Oui,
oui, on s'est rencontrés, on a pris un café, donc j'étais très impressionné, moi, d'aller à ce rendez-vous. Puis ça a duré 10 minutes. Il m'a dit, je crois que c'est bien, merci. Oui. Et on est reparti, puis voilà. Et après, je l'ai vu au duel.
Oui. Sur les détails techniques, Hubert Rangamare parle de persévérance, de forme, de force, de modèle. Il y a une précision dingue, par exemple, sur le son du détail, le fameux bordereau où l'officier français propose donc aux Allemands des infos sur les secrets militaires. Il paraît que 10 personnes ont travaillé dessus pendant 4 mois à la fabrication de ces bordereaux.
Oui, du bordereau
et des papiers.
Et naturellement, de tous les autres papiers très importants dans cette histoire. Il y a le bordereau, mais il y a des tas de documents autres que celui-là, comme par exemple le faux Henri, et tout un tas de lettres qu'on voit apparaître constamment, les lettres d'Esterhazy. Tout ça a été fait avec la même précision. Donc ces 4 mois pour l'ensemble des documents nécessaires.
Et pour quelques secondes à l'image, enfin c'est ça qui est un perfectionnisme fou quand même.
Bien sûr.
Non, je dirais pas que c'est fou, c'est l'exigence de Roman, on la comprend tous très bien, et on est au plus près de la réalité. Dans un film d'époque, il faut être au plus près de la réalité, constamment. Et on l'est sur des documents qui, par ailleurs, existent. On a eu la chance, d'ailleurs, avec Roman, d'aller dans les archives de Vincennes, voir les vrais documents, il en reste, et un paquet même. Et donc, c'est très impressionnant. Quel intérêt aurait-on de faire des choses différentes ? Aucun. Donc, on prend exactement ce qui est exact, et on essaie de trouver, ça c'est Jean Rabas et ses équipes formidables, qui permettent d'avoir la bonne texture de papier, le fameux papier pelure, etc., du bordereau.
Louis Garrel, je pense qu'il y a une pression quand même énorme d'incarner d'abord Polanski et d'incarner Dreyfus.
Mais tout d'un coup, je me disais quand même, il y a eu une chose extraordinaire quand on faisait le film, c'est que c'est le sujet.
Oui.
C'est-à-dire le sujet qui se trouve être une histoire française traumatisante, de très très importante, et du coup sur le plateau, que ce soit, il n'y a pas un figurant qui connaissait pas cette histoire et qui connaissait. Alors évidemment, ce qui est vraiment bien avec le film, grâce à Robert Harris qui est le scénariste, qui est britannique, ils ont fait ressurgir le personnage de Picard et aussi toute la complexité de l'histoire qu'on connaît depuis qu'on est à l'école et qu'on connaît pas très très bien au fond.
Ouais.
Et il se trouve que quand même, sachant tout ça, il y a une espèce de sacré sur le plateau, c'est-à-dire que tout le monde, on se dit, tiens, c'est pas qu'un film de fiction, c'est pas qu'une fiction pour jouer, pour s'amuser, c'est-à-dire qu'on essaie de raconter une histoire qui s'est passée, qui est tragique, qui raconte aussi quelque chose de notre pays, en tout cas de ce qu'il a été, et du coup ça nous donnait quand même une concentration. On a eu un fou rire à un moment donné avec Jean Dujardin sur le plateau. Roman, il a dit arrêtez de déconner, là. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais il a raison d'une certaine manière, parce qu'on peut pas, il faut qu'on arrive à faire ce film d'une manière profonde, quand même. On peut pas le faire d'une manière. Et je pense que c'est pareil pour le département du décor, pour le département des costumes. Tout le monde avait en tête que cette histoire a eu lieu et qu'il fallait bien la raconter.
Mon commandant !
Mon capitaine ?
Mon commandant ? Ai-je fait quelque chose qui vous a offensé ?
Non.
Mais vous êtes le seul de mes professeurs à m'avoir mis une mauvaise note.
Peut-être que je ne partage pas la haute opinion que vous avez de vos compétences.
Ce n'est donc pas parce que je suis juif.
Je prends grand soin de ne jamais laisser mes sentiments personnels affecter mon jugement.
S'il vous faut en prendre grand soin, c'est que c'est une hypothèse envisageable.
Si vous me demandez, mon capitaine, si j'aime les juifs, je suppose qu'en toute franchise, la réponse serait non. Mais si vous suggérez qu'à cause de cela, je pourrais avoir envers vous une attitude discriminatoire sur un plan professionnel, je peux vous assurer que non. Jamais.
Louis Garrel, Dreyfus, il a une espèce de raideur, un côté un peu hautain à jouer, puis à la fois une blessure intérieure. Il y a tout ça à mettre dans le rôle.
C'est surtout, il me semble que Roman Polanski n'a pas abordé le sujet d'une manière avec du pathos ou sentimental. C'est-à-dire même le personnage de Picard, qui est celui qui va se battre à un moment donné pour faire éclater la vérité, il n'a pas d'affection particulière, même, on l'entend dans l'extrait, quasiment aucune connivence avec Dreyfus, puisqu'il commence le film, il est antisémite ordinaire, on pourrait dire.
C'est-à-dire, comme on était à l'époque.
Comme on était à l'époque. Puis quand il se rend compte qu'il y a une erreur judiciaire, il va tout faire, mais parce que c'est son éthique ou sa morale, en tout cas son engagement vis-à-vis de l'armée, qui va dire qu'à un moment donné, il va faire contre la vie de tout le monde, il va essayer de faire éclater cette vérité. Donc, mais même à la fin du film, il y a une très belle scène, c'est pas du tout une fin hollywoodienne, où tout d'un coup les deux personnages qui ont été ennemis au début deviennent très très amis. C'est simplement la vérité. Alors c'est ce qui m'a plu moi dans le film, c'est qu'on a une jouissance comme ça de voir la vérité éclater, mais en plus c'est pas une jouissance fausse ou fictionnelle, c'est une jouissance réelle parce qu'il y a eu dans l'histoire.
C'est pas sympathique, hein. Non, mais on n'est pas au pied des bisounours.
Il y a eu un type dans l'histoire qui s'appelle Marie-Georges Picard, il y a eu un type qui s'appelle Émile Zola, et contre tous, ils ont à un moment donné ils se sont battus, ils ont eu le courage de faire que la justice a été du côté des faibles, en tout cas, on pourrait dire. En tout cas, enfin, à rétablir la justice.
Sur la méthode Polanski, avec les acteurs, je vous propose d'écouter un témoignage, celui de Christoph Waltz.
When Roman sets Quand Roman camera,
installe la caméra,
he says, play the scene.
Il dit, jouez la scène.
And then you play the scene.
Et donc, on joue la scène.
And then he says, play it again.
Et puis, il dit, jouez là encore.
And then you play it again.
Et donc, on recommence.
And then he says, okay, do it again. And he pulls out his viewfinder.
Là, il dit, OK, encore une fois. Et il prend son viseur.
But he's not
il ne se balade pas partout,
because, you know,
parce que tout se passe là-haut, dans sa tête.
And then afterwards,
et au bout d'un moment, il dit, placez la caméra ici.
And then they put the
Donc,
camera
il place
there.
La caméra là.
And then he looks
Alors, il regarde
the camera,
dans la caméra et
says,
dit,
okay, play the scene.
Rejouez la scène.
And then he watches
Après
it
avoir
through
tout
the camera,
regardé, il dit,
says, okay, take the camera.
Bon, déplacez la caméra.
A little to
un
the
petit
right.
peu vers la droite.
And they go
il la déplace de 3 cm et lui,
I said a little.
J'ai dit un petit peu.
All right. I'm not exaggerating.
Et je n'exagère pas.
It's about 7
Ça se joue entre 7 et 9 mm.
9.
Vous connaissez cette précision, Bertrand Gamma.
Parfaitement bien.
Les mises en place sont longues avec lui.
Elles sont nécessaires de toute façon. Donc je ne sais pas si elles sont longues. Elles ont le temps approprié, je dirais. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre les choses lui-même. C'est-à-dire qu'on est la mise en place, il y a très peu de monde sur le plateau, on essaie de faire le silence maximum pour que Roman puisse penser. Et les acteurs jouent sans idée préconçue de la part de Roman, sans a priori, ils jouent jusqu'à ce qu'enfin on puisse arriver au viewfinder, c'est-à-dire c'est un instrument qui permet de trouver un cadre et puis un objectif, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Et donc ensuite seulement viendra la caméra qui sera placée, et elle ne sera pas placée exactement peut-être à l'endroit où les Roman, et en effet il s'agit de millimètres.
Dans ce doc, le travail à l'œuvre, Polanski, le travail à l'œuvre qui passera sur Ciné Plus le 14 novembre, mettons des extraits cette interview. Hervé Deluce, vous dites qu'il connaît toujours la place, il sait qu'il n'y a qu'une place, et c'est celle que Polanski
choisit. Il la cherche. Il y a une anecdote à ce propos d'Anthony Powell sur Tess, il tournait la scène de bal, et il dit le temps que la scène soit réglée, une araignée avait eu le temps de tisser sa toile de la caméra au premier piquet de. au premier volet.
Donc, parce qu'il tombe...
c'est ça, il cherche et la bonne place, mais il sait qu'il n'y en a qu'une et il la trouve toujours. C'est sa vision. C'est pour ça qu'il a beaucoup de mal à tourner à deux caméras, parce que pour lui, il n'y a pas deux visions, il y a une vision par scène. Quoi. Ouais.
Du coup, ça facilite le montage.
Absolument, oui. Bah, de toute façon, il a une vision très précise de ce qu'il veut. Quoi.
Il est très présent au montage ?
Oui, il est assez présent au montage, oui. Ça dépend des films. Il y a eu des films où c'était moins parce que c'était plus, disons, écrit au tournage, quoi, vraiment comme La jeune fille et la mort. Mais sinon, il est très très présent, oui.
Et vous engueulez parfois, vous argumentez. Est-ce qu'on ose argumenter avec Polanski ?
Bien sûr, mais je pense qu'il est en demande de ça aussi.
Ouais.
Il demande pas aux gens d'être des presse-boutons. Il demande l'avis des gens, y compris des assistants, de tout le monde. Enfin,
Pareil pour les acteurs. D'ailleurs, Grégory Gadebois, est-ce que vous avez fait des propositions de jeu à Polanski ?
Je sais pas. Vraiment, c'est une vraie réponse. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça s'est fait exactement comme ça, un petit peu. On commence par, on fait la scène, puis il cherche la place, et puis un moment. Et il y a toujours un moment où il vient proche. Je sais pas si et donner une indication. Et c'est toujours un truc très, à la fois précis et très simple. Et puis il repart, puis on essaye de le faire, et puis voilà, ça s'est fait. Après, il y avait des choses plus... Il m'avait demandé de perdre du poids, il m'a rajouté des cheveux, et puis de se tenir droit, quoi, de s'intéresser un peu à la chose militaire, mais c'est pas une proposition.
Louis Garrel, il dit, Polanski, moi ça me paraît compliqué, pour bien jouer, il faut à la fois savoir rester détendu et être très concentré.
Et la chose avec Roman, c'est qu'il maîtrise un... beaucoup de postes sur le plateau. C'est-à-dire oui. qu'il a une connaissance, par exemple, de l'optique pour le caméraman, pour le chef opérateur, même les costumes. Je le vois résoudre un nombre incalculable de... C'est ça le plus impressionnant sur un plateau quand je l'ai regardé travailler. C'est comment il peut résoudre des problèmes de chacun. C'est-à-dire parce qu'il sait fabriquer. Et comme il sait jouer aussi, il y a deux types de metteurs en scène. Il y a ceux qui savent jouer et puis ceux qui savent pas jouer. Il y a ceux qui savent pas jouer, qui à un moment donné savent dire des trucs. Il y a ceux qui savent pas jouer, qui savent rien dire du tout. Roman, lui, il sait faire la chose. Donc elle est assez démystifiée quand même. C'est-à-dire quand on joue, il n'y a pas de mantra ou il n'y a pas de côté quelle mystérieuse chose qu'est de jouer. Il sait le faire et qu'il s'agit de faire un geste qui soit juste ou pas juste. Donc ce qui veut dire, j'imagine, quand il dit qu'il faut être à la fois détendu et concentré, c'est vrai, mais il y a un moment donné, il l'a fait aussi à Jean. Il me dit, mais Louis, avec ton pouce, détends ton pouce là. Je disais, qu'est-ce qu'il a mon pouce? Ben, tu vois bien qu'il bouge. Et ça, c'est un défaut quand on joue, quand tout d'un coup, il y a une partie de son corps qu'on ne maîtrise pas. Donc il est venu, il me dit, vas-y, tourne tes pouces en rond. Alors je les pousse, j'en ai parlé à Jean, il me dit, il m'a fait le coup du pouce aussi, alors avec le pouce. Parce que quand tout d'un coup, il y a un élément. Vous savez, quand tout d'un coup, il y a un élément du corps, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait à soi-même.
Oui.
Quand on n'est pas tout à fait à soi-même.
On va écouter un autre témoignage d'un autre acteur, c'est Peter Coyote, qui a joué dans Lune de Fiel.
J'ai travaillé avec d'excellents réalisateurs. J'ai travaillé avec Steven Spielberg, Martin Ritt, Brian De Palma. J'ai tourné dans 160 films. Mais Roman est le seul que je pourrais qualifier de génie sans hésitation. Premièrement, il a une parfaite connaissance de tous les postes, autant que le chef de chaque département. Il maîtrise l'éclairage, le son, la caméra, le scénario. Il s'y connaît en tout. Et c'est un homme qui a fait de sa réactivité une question de survie.
He was stopped by his
father. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé quand son père a été emmené par les nazis. Il courait vers son père et son père a fait juste non avec la tête. S'il avait raté ce petit geste, il serait mort à Auschwitz. C'est pour ça qu'il a une telle énergie, une telle anxiété. Il voit absolument tout.
Il a cette énergie énorme. Ben, il faut quand même rappeler que Polanski a 86 ans. Et c'est assez incroyable, quoi. Il fait partie de générations comme un petit peu comme Ken Loach ou Bellocchio, des octogénaires qui sont encore sur le terrain, quoi.
C'est-à-dire qu'on n'y pense même pas. C'est-à-dire que vous me rappelez son âge, mais je l'avais totalement oublié.
Ouais.
Parce qu'on n'y pense pas. Vous savez, il y a une énergie de... J'ai même pas envie de donner un âge. À quoi ça correspond? Ça correspond à Roman Polanski, tout simplement. Donc, on ne fait pas attention à l'âge. Il n'y a pas d'âge. Il est actif... comme je présume il l'était il y a 30, 40, 50 ans. Ça, je ne pense pas qu'il y ait de différence. Donc, c'est le plateau, c'est l'endroit où il révèle toute cette énergie, quoi. C'est sidérant, en effet.
Vous savez, par exemple, une fois, il a fait ça. On avait c'est la scène où Alfred Dreyfus est en prison sur l'île du Diable, et donc on devait tourner une scène où j'étais allongé, la caméra est en plongée sur moi, et tout d'un coup, et on m'attache au fer et tout ça. Et puis on fait la scène, ensuite on passe à l'extérieur, et il y avait les responsables pluie pour faire de la fausse pluie, on était en studio, et je vois Roman qui est en train de déplacer lui-même les rampes à pluie, parce qu'il dit la pluie est pas bonne là. Il faut que vous déplaciez le troisième truc un tout petit peu en amont, puis au bout d'un moment donné, après ces changements, je vois la pluie est mieux. Ah tiens, voilà une vraie pluie de cinéma, alors elle fait pluie. Puis on revient dans la prison, il me dit, Louis, on a un problème, je t'ai filmé en plongée, t'as l'air un peu gros. Et Dreyfus était plus maigre. Je dis, bah oui, parce que je suis allongé. Il me dit, ouais, t'es allongé. Alors attends, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va la retourner, Louis. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et tout d'un coup, je vois qu'il commence à donner des indications. Prenez le lit, mettez-le à la verticale. Clouez les draps et l'oreiller. Et Louis, tu te mets debout et on va te filmer. Et tout le monde, on se regarde tous avec Rabas. On dit, il a pété le boulard. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est n'importe quoi. Puis il fait le plan. Il nous le compare, mais pas en direct, parce qu'il avait deux écrans. Et d'un coup, on dit, putain, salopio. Il a raison, c'est beaucoup mieux, parce que d'un coup, j'avais l'air maigre, puisque ma peau tombait, quoi, on pourrait dire. Et je lui dis, mais tu l'as déjà fait, ça, Roman? Il dit, non, je l'ai pas fait, je l'ai inventé, là, maintenant. Alors je dis, ah, putain, ouais, d'accord. Et puis alors, on s'est couché, parce qu'il avait raison, quoi. Très oui, fort. C'est que des petites... C'est-à-dire, c'est un film. Il y a un projet de départ et tous ces trucs-là. Puis après, c'est qu'une accumulation de gestes techniques. Et puis c'est celui qui... comment un film est très très bien fait, comme celui-là par exemple, je trouve qu'il est extraordinaire dans, à tout point de vue, c'est parce qu'il a une espèce de connaissance technique ou d'invention formelle constante comme ça.
Quand on dit il est classique, Hervé Delus, c'est énervant parce que c'est juste, c'est à la fois moderne, intemporel, c'est...
Absolument.
Lui ne veut pas faire d'effet de cinéma, il ne veut pas faire genre.
Il croit à un certain cinéma, il admire beaucoup le cinéma anglais, Corda et tout ça, mais il veut que ce soit un cinéma qui soit plein, quoi, entier, pas du tout. Il n'y a pas de problème de classicisme, de raconter d'une façon. C'est juste de ne pas utiliser trop de choses, des effets inutiles et des. Mais la dégradation, par exemple, c'est tourné beaucoup en effets spéciaux puisque c'est pas, il n'y avait pas le décor et tout. Il sait maîtriser ça complètement aussi, mais d'une façon qui rentre dans le film, qui ne fait pas sortir du film, quoi.
Et quand il cherche, par exemple, son cadre. Moi, je le regardais, je me disais, tiens, son style, même quand il est en grand angle et tout ça, il cherche jamais au fond, c'est pas un style objectif. C'est-à-dire que c'est sur le moment, quand il déplace sa caméra, comme l'expliquait l'acteur de 3 mm, c'est parce qu'on voit pas celui au fond, et que tu dis qu'il faut voir, par exemple, le juge assesseur au fond, qu'on voyait pas bien parce qu'il était caché à 3 mm plus loin. Donc à chaque fois, c'est toujours une raison narrative et très pragmatique ou logique. Il a une logique. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi logique. C'est-à-dire, parfois, sur le plateau le matin, quand je me disais, tiens, à mon avis, il va avoir un problème avec ça, ça et ça, j'étais en train d'essayer de me dire, tiens, mais moi, si je devais le faire, comment est-ce que je pourrais résoudre ce truc-là? J'avais même pas fini de poser la question qu'il avait déjà résolu 4 problèmes de 4 départements différents. C'est-à-dire, le ventilateur, à quel endroit il faut le placer, enfin bref, tout ça, quoi, tout le temps.
Et il a aussi cette volonté de faire un spectacle, Hervé Delus. C'est très important. Alors, comment ça sent au montage, ça?
C'est-à-dire que dès qu'on sent de l'ennui dans une scène, on se demande pourquoi, on se pose des questions et on cherche à trouver une solution. Et soit c'est quelquefois, par exemple, au départ, on a monté sans musique et on s'est dit le film est un peu austère sans musique quand même. Ça serait bien de rajouter de la musique, ça peut quand même apporter quelque chose. Et puis il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, mais on a fini par en mettre. Et ça, c'était parce que à un moment donné, on s'est dit c'est pas possible de pas en mettre du tout. Quoi, ça crée un, c'est plus du spectacle, ça devient un truc didactique. Quoi, c'est un truc il a besoin de plaire aux gens, quoi, de séduire, quoi, que les gens s'intéressent à l'histoire.
C'est drôle parce que c'est la maquilleuse qui m'a raconté, Vesna, qui est très très bonne maquilleuse sur le tournage, la scène où je dévoile un truc, bref, je ne vais pas dire qui. Quelqu'un, à un moment donné, se suicide.
Ouais.
Oui. Et donc, en se tranchant la gorge. Mmh. Et elle m'a raconté que ça n'allait pas, le faux s'en allait pas, il a dit « je veux du sang de jugulaire ». Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est pas bête du tout, parce que la scène elle est forte pour ça, le sang, ça a l'air d'être un sang qui sort de l'artère jugulaire, donc il a fait changer tout le sang pour avoir du sang de jugulaire.
Comme vous êtes réalisateur, vous avez passé votre temps à l'observer, à observer Polanski sur le plateau, Louis Garrel, non ?
Oui, parce que quand on voit un film d'un grand metteur en scène, on se dit « Ah, mais comment il a fait ? Il doit y avoir une certaine magie », puis c'est ce que je vous raconte, de regarder une espèce d'être consciencieux, ce qu'il raconte dans l'interview, d'avoir une force comme ça et d'insister tout le temps. Donc il insiste tout le temps pour essayer d'avoir ce qu'il appelle son film modèle. Quoi.
Grégory Gadebois, c'est quoi la scène qui vous a fait le plus peur ? Est-ce que ce serait le duel ?
Le duel était... pendant longtemps, le film se résumait au duel pour moi, parce qu'il y avait des leçons de duel, il fallait... J'avais fait de l'escrime à l'école, mais c'était une autre escrime, il fallait réapprendre tout un alphabet, j'étais terrorisé par ça un peu. Et puis c'est du sport, j'ai plus trop l'habitude.
C'est une chorégraphie aussi.
Et c'est une chorégraphie, mais oui. Ça passe par apprendre à le faire. La chorégraphie, elle vient après. Il faut apprendre les mouvements, il faut apprendre à se tenir, tout ça. Donc il y avait Michel Carliès qui était le maître d'armes, qui a fait un gros travail, qui a tout conçu. Le duel et les...
On ne parle pas de lui, mais Dujardin fait une préparation mais gigantesque. Quoi. Il s'est enfermé 2 mois, Hubert Engamard, pour le texte. Il a perdu des kilos. Il voulait complètement posséder son texte au cordeau.
Oui, absolument. Je crois qu'il dit lui-même qu'il avait
jamais... C'est un peu peur, d'ailleurs.
Oui, je crois que c'est un film qui lui a fait peur. Parce qu'il est là de tous les plans. Il est tout le temps là. Donc c'est vraiment un film très exigeant pour lui. Et donc, il a travaillé avec un répétiteur. Il a perdu du poids. Et on a fait des essais aussi, vous savez, de maquillage, etc. Et Roman s'est aperçu qu'il y avait un aspect dans le visage de Jean qui amenait à une forme de second degré, ce qui est un peu ce que fait souvent Jean dans les films.
Oui, ouais, c'est compagnie.
Et bien, le fameux œil de pigeon.
Et oui, c'est cette espèce de sourcil qu'il a un peu en accent circonflexe.
Oui.
Et donc, il a fallu petit à petit raboter cet accent circonflexe.
C'est drôle.
Et ça enlève ce sentiment de second degré dans un jeu.
C'est fou.
Ça va jusque-là, oui.
Je vois que Grégory, évidemment, je trouve que Grégory est un acteur génial, mais je le sais, parce que quand je suis arrivé au conservatoire en première année, il était en troisième année. années et il jouait une pièce de Musset. Il est monté sur la scène du Grand Théâtre et j'ai dit mais qui est ce con qui marche de dos et déjà qui est génial de dos. C'était Grégory. En le regardant, je me souviens de scènes qui fait très bien parce que le Roman Polanski, si on essaye de résumer chacun de ses films, on peut le voir à travers le prisme d'une lecture, c'est un homme qui se retrouve toujours contre tout le monde. Ouais. C'est-à-dire tout le monde, seul contre tous. Mmh. Et c'est exactement le sujet aussi, puisque Spigard se retrouve seul contre tous. Et donc, il faut créer une atmosphère paranoïaque autour de lui. C'est-à-dire quand le personnage se dit, mais est-ce qu'ils sont contre moi ou avec moi? Et Grégory, d'ailleurs, il y a des scènes qu'il fait génialement, parce que Picard se retrouve face à Grégory, qui est lui chef du renseignement militaire. Enfin, deuxième dans la hiérarchie du renseignement militaire. Picard est nommé au renseignement militaire premier. Et donc, à un moment donné, Grégory fait toujours des espèces de tout petits regards en sortant des pièces, par exemple, où c'est ambigu. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est en train de préparer un plan contre du jardin. Et c'est ça que, un des trucs que Polanski sait faire très très bien, c'est créer ces atmosphères de malaise. Et ça passe très souvent par les acteurs. Et il y a au moins 10, 15 acteurs qui jouent ça génialement bien. C'est-à-dire l'arrière-plan agressif, comme ça.
Puis-je vous demander, mon colonel, si vous en avez parlé au général Gonz?
Je lui ai dit que je croyais en l'innocence de Dreyfus.
Et quelle a été sa réaction?
Il m'a dit de laisser tomber.
Alors bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres. Sinon, nous ne sommes rien. Je ne sais pas si Dreyfus est innocent et franchement, je m'en fous. Vous m'ordonnez d'abattre un homme et je le fais. Après ça, vous m'expliquez que vous vous êtes trompé de nom. Eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas de ma faute. C'est l'armée.
C'est peut-être votre armée, commandant. Ce n'est pas la mienne. Bonne nuit, commandant Henri.
Bonne nuit.
Pourquoi vous vous bouchez les oreilles, Grégory Gadebois?
Non, je
n'ai
pas bouché les oreilles.
Si, oui, c'est ça. vous n'aimez pas vous entendre.
Non, pas trop, mais c'est pas.
Ni vous voir? Vous ne
voulez pas? Non, c'est encore pire.
C'est encore pire.
Ouais. C'est une souffrance.
Oui, non, c'est pas, c'est fait.
Et vous n'avez pas vu le film d'ailleurs, il faut le dire.
Non, je vais aller le voir bientôt. Ouais, je vais voir.
Vous êtes un peu curieux quand même de le voir,
non? Ah oui, bah oui.
Louis Garrel, vous évoquez effectivement la tension. Il y a des plans dingues, on ne sait pas où il met sa caméra. Il y a un plan tout bête de du jardin dans son bureau en train de regarder ce document. Il y a comme si la caméra était au-dessus de lui, elle flottait pour créer cette. Je me rappelle dans The Ghostwriter, il est à son bureau, arrive cette femme de ménage qui lui apporte un truc, mais le plan fait super peur alors que c'est juste une femme qui rentre pour lui déposer un plateau.
Repas,
comment il fait ça? Comment il
mais
fait
ça? C'est je pourrais pas dire comment il fait parce que c'est tellement. Il a une idée du sentiment qu'il veut rendre. Enfin, et voilà, il cherche la meilleure façon de le faire. Et voilà, ça sort comme ça. Mais je pense qu'il y a pas chaque cas est particulier, quoi. Chaque fois,
ça rend le spectateur paranoïaque, ce genre de plan. Ça va dans le sens de ce que disait Louis Garrel. C'est-à-dire, c'est aussi rendre le spectateur paranoïaque par rapport à par rapport aux images qu'il voit.
Oui, oui.
Il va se demander tout le temps qu'est-ce qu'il y a derrière.
Il invente toujours des plans. Et dans le Ghostwriter, le mot à la fin qui passe avec la solution, c'est
un ballet.
Hallucinant, quoi. Oui, c'est un truc, c'est un plan magnifique.
Il y a un plan qui, dans Rosemary's Baby, où je sursaute à chaque fois que je le vois, c'est Mia Farrow seule chez elle. Et d'abord, elle est dans il y a une espèce de couloir, un enfilade de pièces dans l'appartement qui est vide. Ouais. Et c'est le moment où elle commence à se dire tout le monde est contre moi. Et elle décroche le téléphone. Et pendant qu'elle décroche, elle se retourne. Donc la caméra légèrement se décale pour voir s'il y a quelqu'un dans l'enfilade. Il n'y a personne. Elle se retourne une deuxième fois. Il n'y a toujours personne. Une troisième fois, on oublie. Du coup, on est sûr qu'il n'y a personne. Et pendant qu'elle parle, on voit les deux petits vieux du dessus qui marchent, mais à hurler de peur, carrément. Il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est juste un mouvement de caméra de 3-4 secondes. C'est simplement un coup d'échec génial de lui qui nous fait oublier. Ah tiens, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va passer. Au moment où il passe, bam, on a tout oublié. Je hurle à chaque fois.
Moi, le plan qui me fait le plus peur de toute son œuvre, c'est dans Le Locataire, les hiéroglyphes dans les toilettes. C'est rien. Enfin, je veux dire, c'est des hiéroglyphes sur des murs et ça fait atrocement peur, quoi.
Ouais, il a une espèce de maîtrise de l'horreur comme ça.
Mais il dit toujours que les détails sont très importants. Plus les détails sont justes,
la vérité.
Et plus on peut raconter une histoire abracadabrante. Quoi. Plus les gens y croient.
C'est
et
ça.
Par exemple, il y a une sortie de musical là dans le film dans J'accuse. Il y a un type qui pisse contre le mur. Tout le monde se souvient de ça. C'est tout, c'est un tout petit détail. Oui. On ne sait pas pourquoi. Il y a, vous vous souvenez du plan
Oui.
C'est un mini détail. Je sais pas pourquoi d'un coup ça rend la scène vraie.
Ça s'appelle J'accuse. Ça sort mercredi prochain. Alors il y a des, il y a. D'abord il y a 8 acteurs de la Comédie Française. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement doués qu'ils arrivent à s'imposer tout de suite. C'est pour ça qu'ils sont pris d'ailleurs. On va citer Emmanuelle Seigné, la seule femme de grand rôle féminin.
Pas la Comédie Française.
Non, non, non. Hervé Pierre, Didier Sand, Melville Poupeau, Éric Ruff, Laurence Stocker, Michel Vuillermoz, Denis Podalydès, Laurent Natrella, Bruno Raffaelli, énorme, incroyable.
Vladimir Yordanov.
Oui,
Vladimir Yordanov.
Et Vincent Grasse.
Pardon,
excusez-moi. Voilà. Merci.
Un beau casting.
Vous restez avec nous, on parle des sorties de ce mercredi après Céleste. Laurent, on va parler de cinéma cette fois.
Ah bon, bah comment on va continuer
Non, on va continuer à parler de cinéma, mais comme vous parliez de, à nouveau d'autres choses, voilà. Un monde plus grand, on va commencer par le film de Fabienne Berthaud avec Cécile de France. Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corinne pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour, mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage. Elle lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. Un film adapté du livre « Mon intuition chez les chamanes » de Corinne Sombrin, qui a d'ailleurs co-signé le scénario. On adhère ou pas à ce parcours initiatique?
Bah, la question principale pour moi, c'est quand même de savoir s'il faut payer 10 euros ou plus, même pour aller voir un numéro de Voyage en Terre Inconnue, un numéro inédit de Frédéric Lopez, sans Frédéric Lopez, mais avec Cécile de France, qui donc part effectivement dans la Mongolie des chamans. Alors, la fiction n'est pas là, bien sûr, puisque c'est un numéro de Voyage en Terre Inconnue, donc il n'y a pas de fiction, sauf un mélo nébuleux de veuvage concernant le personnage de Cécile de France. Et le reste, c'est un long doc très militant, quand même, sur le chamanisme et sur les autres substances hallucinogènes qui vont avec. On doute un peu du plaisir qu'on peut y prendre, et puis surtout peut-être on souffre un peu de voir Cécile de France, qu'on aime beaucoup par ailleurs, embarquer dans cette galère faussement réaliste.
Mon chien stupide de Yvan Attal. Henri est en pleine crise de la cinquantaine, les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal au Belmondo, il l'attribue à sa femme et ses 4 enfants, à l'heure où il fait le bilan critique de sa vie. Un énorme chien, mal élevé et obsédé, décide de s'installer dans la maison pour son plus grand bonheur, mais aux grandes dames du reste de la famille, et surtout de Cécile, sa femme. Ce film, bien sûr, est tiré du livre « Mon chien stupide » de John Fante. Alors qu'on pense plutôt à une sorte de troisième volet après « Ma femme est une actrice » et « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », donc proche de l'autofiction, et on ne peut pas s'en empêcher parce qu'on connaît ce couple Attal-Gainsbourg depuis longtemps. Avait-il besoin de cette adaptation et de cette métaphore canine? Oui, peut-être, pour s'accorder et même s'approprier ce ton corrosif. Par parenthèse, Attal n'est jamais aussi bon que quand il est furieux, bougon, de mauvaise foi. Dommage que sa tribu, ses 4 enfants, soit un petit peu caricaturé. Heureusement, il reste ce couple et cette scène dans le canapé. Un morceau de tendresse, une bonne scène d'ailleurs, mais comme une fausse note dans ce film qui se voudrait plus méchant, plus cynique, comme l'est le livre de John Fante.
Il y a quand même 2 films, à mon sens, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire deux moments. La première partie qui est drôle, méchante, sarcastique, vraiment enlevée, on rit beaucoup. Et puis, effectivement, le cinquantenaire pas très rugissant qu'incarne à la perfection Yvan Attal devient de plus en plus mélancolique, parce que la mélancolie le prend fort justement. Et les enfants, notamment, moi, je trouve ça intéressant finalement qu'on s'y intéresse pas, parce que c'est en partie le propos du film aussi. C'est-à-dire qu'il n'existe pas aux yeux notamment de ce père, où il n'existe plus. Et il faut dire qu'aux côtés d'Yvan Attal, mais vous l'avez souligné, il y a Charlotte Gainsbourg qui est extraordinaire dans ce rôle de mère qui conjugue, on va dire, l'optimisme de la volonté avec le pessimisme de l'intelligence.
La Cordillère des songes de Patricio Guzman, 3e volet après, on se rappelle, La nostalgie, la lumière, merveilleux, et Le bouton de nacre. Il est bien sûr toujours question de la confrontation des hommes, du cosmos et de la nature, Laurent.
Ben oui, en voyant ce qui se passe actuellement au Chili, c'est un film qui résonne encore plus, c'est-à-dire ce pays n'en finit pas d'essayer de tourner des pages.
Et qui prévoit même d'ailleurs ce qui se passe maintenant.
Oui, absolument, une crise avec ce propos très particulier en mettant au centre un cinéaste qui s'appelle, un collègue qui s'appelle Pablo Santas, qui n'arrête pas de filmer le Chili depuis le coup d'État de Pinochet, et encore maintenant, qui doit filmer des choses aussi en ce moment. Donc après le désert d'Atacama et après la Patagonie, on est dans la cordillère des Andes avec cette métaphore sur cet immense bloc de montagne qui est certainement une métaphore du Chili du passé et aussi du Chili actuel. C'est magnifique, la cordillère des songes de Patricio Guzman, c'est vraiment un magnifique documentaire.
Une autre montagne en France plus petite, debout sur la montagne, Sébastien Betbédé, Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes, ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, devenus des adultes un peu abîmés par la vie, ils se retrouvent dans le village de leur enfance avec William Lebile, Isia Higelin, Bastien Bouillon. C'est un sujet qui pourrait tenir sur un post-it, pourquoi pas. Et cette question, peut-on retrouver la foi, la joie et l'innocence de l'enfance et reprendre une amitié là où on l'avait laissée, chez des trentenaires paumés? Ce qui pouvait être charmant dans les films précédents de Betbédé, cette fragilité, ce côté délicieusement maladroit, tourne cette fois en rond, à vide, un pauvre scénario qui ne sait pas où il va, un parfum amateur qui ne fonctionne plus.
Je retiens 2 choses néanmoins. André Wims en curé, qui programme un ciné-club dans sa paroisse où il ne passe que des films comme Freddy, Les Griffes de la Nuit. Bon, ça me fait rire, je trouve qu'il est très très bien. Le sourire et le rôle est là, et la personnalité d'Isia Higelin transcende un petit peu les choses. Mais ça dure 1h40, c'est beaucoup trop long pour ce qu'a à dire Belbédé.
Oleg de Juris Kursietis. Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles où il espère travailler contre un salaire décent. Trahi par un collègue, son expérience tourne court. Oleg est alors recueilli par un criminel polonais avant de tomber sous une emprise mafieuse. Le film était à la Quinzaine des réalisateurs et c'est une perle, Laurent.
Oui, c'est une vraie découverte, une vraie surprise, parce que bon, des films lettons, on n'en voit pas tous les matins, c'est vrai, hein, même en se levant tard. Mais il se passe à Bruxelles, alors bizarrement, mais on pourrait presque le placer sous le patronage des frères Dardenne, tellement effectivement ça décrit une sorte de parcours de descente, de longue descente aux enfers de quelqu'un qui voudrait s'intégrer et à qui la société refuse cette intégration et qui est pris en charge par une autre société qui est la société délinquante, donc avec beaucoup plus de problèmes. Et c'est filmé comme ça, très très près des corps, avec une très belle façon de mettre les choses en scène. La toute petite réserve que j'aurai concerne la fin, que je ne raconterai évidemment pas, mais qui à mon avis tranche par son invraisemblance politique sur le reste.
Le Traître, on rappelle, bien sûr, on lui a consacré une émission, mais le film est absolument génial de Marco Bellocchio. Au début des années 80, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne, Tommaso Buscetta, membre de cette Cosa Nostra, arrêté par la police brésilienne puis extradé, prend une décision qui va changer le cours de la mafia, rencontrer le Falcone et trahir le serment de la Cosa Nostra. C'est une histoire pratiquement jamais racontée par le cinéma italien. Bellocchio s'en empare, peint le tableau historique avec une grande rigueur. Il s'est appuyé bien sûr sur de multiples documents, un peu comme Polanski, et des procès-verbaux, voilà pour la véracité. Mais comme c'est Bellocchio, il sait aussi décrire un climat, une tension. Il transforme un procès en opéra, mais aussi il entre dans la tête de ses protagonistes, un spectacle intime et collectif avec des grands moments de cinéma et un acteur absolument magistral pour incarner Buscetta, c'est Pier Francesco Favino. Louis Garrel, vous avez vu ce film?
Très très bon film, ouais. Et surtout qui démystifie comme ça l'image du mafieux viril et auquel on a envie de ressembler, pour simplement décrire des crapules dégoûtantes et qui sont vulgaires et qui doivent vraiment être définies comme ça.
Ouais,
c'est la preuve qu'on peut faire un chef-d'œuvre et repartir bredouille de Cannes.
Chichinette, ma vie d'espionne de Nicola Hans, incroyable cette femme. Allemagne 45, Marthe Hoffnung, connue sous le nom de Chichinette, la petite casse-pied, infiltre les lignes ennemies et réussit à berner les nazis. 74 ans plus tard, âgée de 99 ans, elle fait le tour du monde comme une rockstar et témoigne inlassablement de son histoire, Laurent.
Oui, alors vous savez, sur les affiches des films, il y a parfois comme ça des mentions magnifiques, bouleversants, lumineux. Ben là, c'est vrai. C'est tout à fait vrai pour ce documentaire. Cette petite bonne femme de 96 ans, s'il vous plaît, qui sillonne l'Europe avec son mari, alors qu'elle vit aux États-Unis, qui est haute comme trois pommes à genoux, et qui n'arrête pas de parler à des jeunes sur ce qu'il faut faire quand on est confronté à l'indicible, comme à la fois et la Shoah, et ensuite la libération, etc. Elle est courageuse, malicieuse, entêtée, perfectionniste. Elle est extraordinaire. C'est une leçon de vie qu'il faut impérativement aller voir au cinéma.
45 secondes pour une ressortie, Quand passent les cigognes. C'est une énorme ressortie, Mikhaïl Kalatozov. Un festival musique et cinéma.
Alors, Palme d'Or, oui, Palme d'Or 58. Hein, oui, pour le... Il existe aussi en DVD chez Potemkin, ça permet aussi de contourner les choses si on ne veut pas le voir au cinéma. Et le 6e festival du cinéma et de la musique, c'est à La Boule du 6 au 11 novembre, avec notamment Gabriel Légaret, Pierre Richard et André Téchiné. Musique et cinéma, on aime ça.
Les cadeaux, vite, alors.
Bien sûr, très vite, évidemment. Pour Hervé Deluz, un livre Assayas plus de pardon, Los Angeles 1982, ils y étaient tous les deux. L'un fait son journal de bord en texte, l'autre en photo. C'est au Seuil. Merci et c'est beaucoup. Un très joli bouquin. Pour vous, Hubert Angamard, on a pensé que Henri Alécand ne vous était pas totalement inconnu. Ses mémoires s'appellent Le vécu et l'imaginaire, de Cocteau à Lozé. C'est aux éditions de la Table Ronde. Merci et c'est beaucoup. Une belle lecture. Pour vous, Grégory Gadebois, eh bien, nous avons choisi l'un de vos confrères récemment décédés, hélas, Jean-Pierre Mariel, Le lyrique et le baroque chez les éditions du Rocher. C'est une bio de Stéphane Cochet. Et puis enfin, Louis Garrel, Sterling Hayden, ça vous dit quelque chose? Voilà, merveilleux acteur, évidemment, chez Kubrick, entre autres. Philippe Garnier en fait plus qu'une bio de cet acteur alcoolique, espion aussi à ses heures. C'est chez La Rabia, et c'est à lire, avec très très joliment illustré également.
Énorme. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Uri Gadebois, merci Bernard Angamard, merci Hervé Deluz, merci Louis Garrel. Ça s'appelle J'accuse, de Polanski, ça sort mercredi prochain. On va dire un grand merci aussi à Cyril Sauvageau et Franck.
Non, ça sort pas ce mercredi-là.
Mercredi prochain.
À prochain, d'accord.
Un mercredi d'après, pardon. Voilà. Ça sort
le 13 novembre.
Bien sûr, on est en avance.
C'est pas à moi de faire ce jour de
plongé dans le livre Henri Alcan.
Merci beaucoup à Cyril Sauvageau, donc, et à Franck Madvon pour les voix françaises.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Hubert Angamard, j'y étais.
Merci Pauline Laverdure d'avoir été aux manettes aujourd'hui. Dans quelques minutes, vous serez sur les épaules de Darwin, mais pour l'instant, il est 11h un petit peu passé sur Inter.